On va continuer et terminer notre étude dans ce livre si connu de Nahum. Bon, je vous invite à ouvrir et à lire le chapitre 3 avec moi. Je pense qu'à force, maintenant, vous commencez à mieux comprendre ce livre. Enfin, j'espère. Sinon, on recommencera la semaine prochaine. Nahum, chapitre 3. Le chapitre 3 est un peu plus précis que le chapitre 2. On va un peu revoir un peu les mêmes choses, mais on va faire d'autres constats ce matin aussi. Donc, chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on tombe sur les morts. À cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits et habiles enchanteresses qui vendaient les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra ? Où te chercherai-je des consolateurs ? Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entouré par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille ? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Put et les Libyens étaient ses auxiliaires, et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi tu seras enivré, tu te cacheras. Toi aussi tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de ceux qui les mangent. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis, le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme les sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes princes sont comme des sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles, qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent, et on ne reconnaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ? Ce n'est pas franchement un texte pour nous encourager, hein, dans les moments d'épreuve, j'imagine, mais en tout cas, il est dans la parole de Dieu, et comme toute la parole de Dieu est inspirée, c'est qu'il veut nous apprendre aussi quelque chose. On avait vu dans le premier chapitre que Ninive, ou l'homme peut-être, peut se trouver parfois si petit devant Dieu. Et il faut le réaliser, hein. Ninive avait été avertie et voulait résister malgré tout à la puissance de Dieu quelque part, mais c'était complètement en vain. Chapitre 2, on voit combien cette Ninive était tellement faible devant Dieu et devant surtout la souveraineté de Dieu. Quand Dieu a décidé quelque chose, il l'accomplit. Un point, c'est tout. Que l'homme veuille ou qu'il ne veuille pas, qu'il résiste, ce que Dieu veut va absolument s'accomplir. Et on verra bien qu'à la fin des temps, les gens ne veulent pas de Dieu et pourtant, ben, le plan de Dieu s'accomplira. Et là, on va parler un peu de l'aspect coupable de Ninive devant Dieu, puisque Dieu va faire une espèce de plaidoyer à son égard. Hein, et ce qu'il dit en gros, c'est que le péché mérite d'être tout simplement puni. Ninive, tu es absolument coupable de tous tes péchés. À nous de nous réjouir aussi à travers ce texte que nous ne sommes plus ennemis de Dieu, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quand on voit ce qui attend l'ennemi de Dieu, on se dit qu'en tant que chrétien, fait du bien, non ? On est quand même plus en paix, en tout cas. Première chose qu'on apprend dans ce texte, versets 1 à 4, hein, c'est que Ninive est coupable devant Dieu. Il n'y a aucune autre chose à dire. Et on a l'impression qu'on est devant un tribunal et que Dieu est en train d'accuser tout simplement cette ville et va charger tout simplement Ninive de tous ses péchés. Il commence en disant, c'est une ville sanguinaire, violente, voleuse, cruelle, meurtrière, idolâtre. Ça fait mal, hein, quand on prend ça en pleine figure, quelque part. Ça rappelle nos villes aujourd'hui. peut-être pas sanguinaires forcément, mais elles sont violentes, elles sont voleuses, elles sont cruelles, meurtrières peut-être, et des fois idolâtres, et pleinement même. Hein. Ça me rappelle aujourd'hui aussi. Il dit ensuite qu'elle est pleine d'attrait. Elle attirait en fait les autres par ses grâces, en fait, ses fausses grâces, et finalement elle trahissait les gens et vendait bien souvent les hommes comme des esclaves, tout simplement. Et Dieu a un chef d'accusation contre elle, il l'accuse tout simplement de tous ses péchés. On en avait vu déjà dans les chapitres précédents, et tous ces péchés sont une réalité que Ninive a effectivement faite, et Dieu dit et déclare, tu es absolument coupable. Et surtout, et je pense que c'est là le summum peut-être de sa culpabilité, c'est que à l'époque, quand Jonas était venu avertir que la ville va être détruite, hein, il y a 150 ans avant, la ville de Ninive, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est repentie. Et 150 ans après, avec l'expérience, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a quand même une expérience là, 150 ans après, ben, elle n'a pas compris la leçon. Cette fois, elle s'oppose absolument à la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu avertit, ce n'est pas pour punir tout de suite, il avertit tout le temps. Mais c'est seulement pour que ben, l'homme, ou Ninive en l'occurrence, ben, fléchisse le genou et s'humilie devant Dieu. Mais là, le problème, c'est qu'elle refuse absolument la grâce de Dieu cette fois. Malgré tout son péché, Dieu lui avait offert la possibilité de changer d'attitude. On a quand même un grand Dieu quand on y réfléchit. Hein, parce que nous-mêmes, nous étions des sacrés pécheurs avant de rencontrer Christ. On est peut-être moins aujourd'hui, on pêche encore, mais Christ nous a rencontrés alors qu'on était extrêmement pécheurs, mais Christ nous a laissé une chance. Il aurait pu très bien dire, écoutez, vous me fatiguez avec vos péchés, moi j'en ai marre, à partir du jardin d'Éden, il n'y aurait pas eu de solution. Il aurait pu le faire, il est souverain. C'est là où on parle de l'amour de Dieu des fois, mais on ne se dit pas non plus, mais la grâce qu'il nous fait de pouvoir être sauvés. Mais évidemment, à la fin des temps, beaucoup de gens refuseront tout simplement cette grâce. Mais Dieu prouve son amour justement parce que même s'il hait le péché, il aime le pécheur et il a envie simplement qu'il change d'attitude. Hein. À nous aussi d'être comme lui des fois parce que nous n'aimons pas le péché, déjà pas le nôtre. Mais quand on voit le pécheur dans son péché, des fois on est un peu... Hein, ça nous dégoûte quelque part, mais à nous de l'aimer quand même. On était comme lui autrefois, hein, n'oublions pas. Et Dieu a tendu la main. Évidemment, nous nous sommes repentis, lui on verra bien. Mais à nous d'aimer aussi ce monde qui hélas se perd. Mais Ninive, cette fois, va dire « Non, je ne veux pas de la grâce, je ne veux pas de pardon. Moi, je résiste en face de Dieu. De toute façon, avec toutes mes murailles, avec mon armée, avec toutes ces choses-là, qu'est-ce que Dieu peut contre moi ?» Vous savez, à un moment, l'homme arrive avec trop d'orgueil. Il n'arrive plus à s'en sortir, avec trop de puissance peut-être, trop de richesse, comme Ninive était à ce moment-là. Et quand on est trop, c'est tellement difficile de s'humilier devant Dieu. Pourtant, Dieu nous a cherchés dans des situations où on était aussi trop. Hein, mais heureusement que Dieu est patient avec nous. Mais il y a des gens qui sont tombés tellement loin dans l'orgueil. Je pense à Pharaon hein, qui s'est endurci. À un moment, bah, on ne peut plus rien faire. Si la personne ne veut pas de Dieu, bah, voilà, elle a fait son choix tout simplement. Ça rappelle tout cela aussi, hein, parce qu'on peut se projeter dans le temps, hein, les jugements à venir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais rapidement, à la fin des temps, et particulièrement à Armageddon, pendant 7 ans avant, il y a l'Antichrist qui va monter en puissance et va se prendre pour Dieu. Il va demander à la terre d'être adorée par la terre. Et la terre va faire quoi? Va l'adorer. C'est curieux, Christ est ressuscité, personne ne l'adore, alors qu'il est vraiment ressuscité. L'Antichrist va faire semblant d'être ressuscité, hein, si vous voulez des détails, venez me voir tout à l'heure, et le monde entier va l'adorer. C'est quand même fou. La vérité est refusée, le mensonge est acclamé. Tout simplement. Mais Christ va évidemment punir cet antichrist hein, parce qu'il sera menteur, sera blasphémateur, il se prend pour Dieu, un peu comme Ninive quelque part, un peu comme nos nations aujourd'hui qui sont prêts à défier tout simplement Dieu. Puis un autre jugement qui aura lieu après le millénium, une fois que la terre sera détruite, le grand trône blanc où tous les incroyants vont ressusciter simplement pour entendre une seule sentence, c'est vous allez être jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Ça doit nous faire réfléchir si nous ne sommes pas encore sauvés aujourd'hui. Ou peut-être de regarder ceux qui ne sont pas sauvés, et d'avoir l'amour pour ces âmes et de prier pour eux, de témoigner dans la mesure où on peut, où ils veulent bien aussi nous écouter. Mais quand cette sentence sera donnée, il n'y a plus aucun moyen de sortir de l'étang de feu. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous serons devant le tribunal de Christ, un moment de grande solitude, certainement. Alors, ça dépend comment on aura vécu dans notre vie chrétienne, hein, mais qu'est-ce que Dieu dira sur notre comportement en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il va dire sur notre adoration? L'adoration, ce n'est pas chanter le dimanche matin. L'adoration, c'est une vie qui ressemble aussi à Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire sur mon service? que j'étais un gros fainéant? Est-ce que j'ai trop travaillé juste pour mon orgueil? Parce que ça aussi, ça peut être nuisible des fois. Est-ce que j'étais un bon témoignage? Qu'est-ce que Christ va dire sur nous quand il va nous évaluer? Peut-être évaluer tout à l'heure. Et puis on n'est plus là. Ça doit nous faire réfléchir, Ninive, hein, même si ce n'est pas directement la leçon, mais quelque part, ça doit nous faire réfléchir, nous, en tant que chrétiens. Il ne remettra pas en question le salut, ça s'est accordé à celui qui est né de nouveau, mais il va nous évaluer parce qu'il nous a donné des choses à faire, des dons, des œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions, pas pour que nous les regardions, que nous les contemplions, pour que nous les pratiquions. Je pense que le chrétien a tendance à minimiser cette évaluation, peut-être pas quand il va mourir, mais comme on est de façon éternelle, donc on n'est pas pressé de partir. Hein. On a l'impression des fois qu'on ne mourra jamais, enfin surtout quand on est jeune, évidemment. Mais à nous de ne pas minimiser cette évaluation. Dieu pardonne, Dieu est juste, mais s'il veut donner des récompenses, c'est qu'il y a aussi une récompense. Il y a une raison pour cela, à nous d'y réfléchir, et peut-être de nous évaluer nous-mêmes avant d'être évalués par Christ. En tout cas, Dieu connaît tous nos actes. Il connaît ceux de Ninive, il connaît mes actes à moi, coupable ou pas, et il jugera toutes ces choses parce qu'il est juste, parce qu'il est saint et parce que lui a le droit de le faire, tout simplement. La grande différence, c'est que si on est sauvé, ça sera moins grave que pour Ninive, pour ceux qui sont perdus, évidemment. Deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est qu'être coupable devant Dieu, ben forcément, ça produira des conséquences, ça a des conséquences. Et pour une deuxième fois, et ça c'est rare que Dieu le fait, mais... Au chapitre 2, verset 14, il disait déjà « j'en veux à toi, Ninive ». Et là, dans le chapitre 3, il reprend une deuxième fois « j'en veux à toi, Ninive ». Je ne sais pas si vous sentez comme c'est lourd, comme c'est plein de condamnation, comme c'est terrible, en fait, de tomber entre les mains de Dieu. Hein. Dans Hébreux 10, 30, il dit « c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Je ne sais pas si vous sentez l'horreur, quelque part, pour Ninive, parce qu'elle va souffrir à cause de cela. Mais tomber entre les mains de Dieu et quand Dieu dit « je t'en veux à toi personnellement », ça devrait nous calmer. Parce que c'est un jugement personnel de Dieu, direct, une sentence divine, terrible à l'égard de Ninive. Dieu dit que Ninive a fait du tort aux hommes, mais quand vous faites du tort aux hommes, vous faites du tort à Dieu directement aussi. Quand je fais du mal à quelqu'un, Dieu aussi est atteint quelque part. Et Dieu a vu le tort que Ninive avait fait. Autrefois, Dieu s'est servi de Ninive et peut-être d'autres rois pour punir Israël, mais ce peuple, justement, s'est enorgueilli par ses richesses, etc. et n'a pas compris beaucoup de choses. Et finalement, elle ne veut pas de Dieu. Et Dieu va humilier Ninive. Hein, il dit « je vais relever tes pans jusqu'au visage hein, ». C'est comme si on relevait la jupe. Alors, on imagine que ça peut être humiliant pour quelqu'un, mais c'est une image. Hein, il va montrer sa nudité. En fait, il va montrer son humiliation tout simplement aux nations. « Ah, tu étais riche ?» Tu étais puissant, tu avais des grandes murailles imprenables. Ben regarde maintenant, il n'y a plus rien. La honte totale. Hein. Et le monde va être là, témoin de cette honte, de ce luxe qui est passé à la nudité, de ce puissant qui est devenu totalement impuissant. Et Dieu va le montrer en spectacle, certainement qu'il ne fait pas ça pour le plaisir, mais pour être aussi un exemple pour nous, pour que les gens comprennent aussi la puissance de Dieu. Personne ne va la plaindre, ni la consoler. Normal, après tout ce qu'elle a fait de mal, hein, c'est normal qu'on ne vienne pas lui dire « Oh, ma pauvre, tu as tué, tu as fait tellement de mal aux gens, on ne va pas aller plaindre quelqu'un comme cela. » Et surtout, quelqu'un qui refuse la grâce. Parce qu'on peut avoir fait des bêtises dans notre vie, avoir fait beaucoup de mal. Je pense à Paul, hein, il a quand même fait tuer des chrétiens. Mais il a fait une chose, il s'est repenti. Il a demandé pardon pour ce qu'il a fait. Et si Ninive lui avait demandé pardon pour tout cela, eh bien évidemment, Dieu aurait été plein de grâce comme il a été la première fois. Et puis Nahum va faire une comparaison avec Noamon, vous ne connaissez certainement pas, hein, c'est Thèbes, l'autre nom de cette ville, c'était une capitale de la Haute-Égypte, et qui était aussi, comme Ninive, réputée comme imprenable. C'était une ville prestigieuse d'Égypte, et qui va être très vite oubliée aussi, comme Ninive. Et ça aurait dû être une leçon pour Ninive, hein. Regarde cette ville-là, qui se disait imprenable, qui était toute puissante, regarde où elle en est aujourd'hui. Et toi, tu veux faire la même chose. Eh bien, tu vas souffrir la même chose que Noamon. Et il dit dans le texte hein, de Nahum, il dit que Noamon avait des défenses. Les défenses, c'était stratégique, puisqu'il y avait la mer autour d'elle et les fleuves. Donc c'est difficile d'accès. Hein. Quand vous avez la mer et les fleuves, c'est pas facile d'aller dans la mer pour aller conquérir la ville. Et puis il dit aussi qu'il y avait beaucoup d'alliés, hein, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Peuls. Il y avait beaucoup de peuples autour qui étaient prêts à aider Thèbes enfin Noamon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Fière d'elle, se croyant imprenable, elle est tombée en 663 avant Jésus-Christ par Assurbanipal, hein, un roi d'Assyrie, qui prendra tous les gens en exil, en captivité, et rasera la ville tout simplement. Voilà. Ninive aurait dû se dire à ce moment-là, mince, je suis un peu comme cette ville. Et finalement, le résultat, bah, il n'est pas terrible à cause de son orgueil. Peut-être qu'il faudrait que je change. Et je pense que même Nahum est là pour nous servir d'exemple à nous en tant que chrétiens, parfois, parce qu'on sait s'enorgueillir à un point, des fois. Je ne vais pas demander pardon. Non, je ne mérite pas le pardon, cette personne. Ou il y a d'autres manières de s'enorgueillir dans notre cœur à un point, mais il y a tellement d'exemples dans la ville qui nous montrent que ça ne sert à rien, qu'au bout, finalement, bah, soit on sera écrasé par Dieu et nous reprendra en tant que chrétiens, soit il est préférable tout simplement de demander pardon et de s'humilier devant lui. Mais Ninive, tu vas connaître le même sort. Elle a beau se cacher, comme dit le texte, elle a beau chercher un refuge avec des alliés, avec je ne sais pas quoi. Cours, cours, je te choperai et je te punirai. On a beau se cacher n'importe où, le Seigneur sait très bien où on se trouve. Dieu montre là, à partir de versets 12 et 13, la faiblesse en fait de celui qui se croit être si fort et capable même de défier Dieu. Hein. Il dit, ses défenses sont complètement faibles. Hein. La forteresse, hein, on se souvient, cette grande forteresse qui va s'écrouler tout simplement. On en parlera après. Comme quand on secoue un figuier, c'est dire la fragilité hein, devant Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse devant Dieu? C'est ça, et puis tout s'écroule sur la terre, s'il voulait, tout simplement. Mais l'homme, hein, l'homme croit qu'il est fort. Faiblesse du peuple, puisqu'il est comparé à des femmes. Excusez-moi, mesdames, hein, c'est le côté faible, évidemment. Je pense à ces soldats aussi qui sont comparés à des femmes, parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas repousser l'ennemi là, qui est en train d'envahir tout simplement la ville. Ça devait être terrible de passer à cet orgueil de toute puissance, de capacité, hein, se croire si fort, et d'un seul coup se retrouver réduit à rien. C'est ce qui arrivera aussi à la fin des temps, hein, toutes ces nations qui se croient toutes puissantes, tous ces hommes qui sont prêts à se battre contre Dieu, qui d'un seul coup se retrouvent complètement démunis devant lui, ne peuvent rien faire. Ça doit faire mal dans le cœur. Je pense que quand on s'est converti, on est passé un petit peu aussi par là. Hein. On a peut-être résisté à Dieu d'une manière ou d'une autre. La repentance est assez douloureuse souvent, parce qu'on doit se souvenir qu'on a mal fait, qu'on s'est trompé de chemin, on doit reconnaître nos fautes. Mais pour tous ces gens, à la fin, il n'y aura pas de repentance possible. Et ça va être terrible pour eux. Et puis faiblesse de ces gens qui sont athées finalement, qui pensent être forts devant l'homme, hein. Ah oui, devant les nations, on a envahi, on a tué, on a massacré des gens, ouais, devant les hommes, vous êtes forts. Mais devant Dieu, on n'est rien. On est complètement impuissant, et Ninive, encore une fois, a été un exemple. C'est terrible, le cœur de l'homme, son orgueil, son capacité à défier Dieu, c'est absolument effroyable. Mais heureusement que nous l'avons compris. C'est pour ça que je disais, c'est bien de ne plus être ennemi de Dieu, parce que nous, on s'est humilié devant Christ. Enfin, je le souhaite. Chacun d'entre vous. On peut tirer des leçons pour nous. Hein. Dieu en veut aux pécheurs. La Bible nous dit que Dieu est en colère contre le pécheur, contre celui qui refuse de se repentir, qui refuse tout simplement sa grâce. C'est quand même formidable qu'on est dans le péché, on est absolument coupable, et quelqu'un veut me pardonner, gratuitement, avec plein d'amour, et que je dise non. On était comme ça avant. Parce que Dieu, je pense, est revenu plusieurs fois. Mais c'est ça, tout simplement, refuser la grâce de Dieu. Il veut tout donner son amour pour moi, et moi je dis, j'en veux pas. C'est triste, quelque part. Mais Dieu en veut au pécheur, et le pécheur a beau dire, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, Jésus ne reviendra pas, à un moment, le pécheur devra dire, ah, je me suis trompé. Mais là, ça sera trop tard. Notre leçon, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que tous ces gens seront un jour humiliés. Ninive, Thèbes, peut-être beaucoup d'autres villes dans la Bible ont été des exemples justement d'orgueil qui ont été tout simplement écrasés. Si moi dans mon cœur je me sens encore si fort peut-être, eh ben, c'est l'occasion peut-être de réfléchir et de voir l'exemple de ces villes, que finalement il vaut mieux être humble devant Dieu que d'être pleinement orgueilleux. Ça ne sert à rien, on ne gagnera jamais rien au bout de toute façon. Acceptons plutôt, hein, troisième leçon, de nous humilier devant celui qui de toute façon est plus fort que moi. Pourquoi me battre contre quelqu'un qui est plus fort que moi? On est maso des fois, hein, excusez-moi le terme, mais on est fou même parfois. Hein. Je pense à mon passé quand je savais que Christ existait, je savais ce qu'il voulait pour moi, mais moi j'en veux pas, je suis plus fort que toi. On est fou, on est complètement fou. Refuser la grâce, et là, ce qui est peut-être plus grave, c'est parce que Nahum avait déjà été touché par cette grâce une première fois, hein, 150 ans avant. Mais là, il la refuse pleinement, catégoriquement, et finalement, bah, les conséquences, ça sera tout simplement la destruction. Comme on l'a dit, c'est de la folie que de vouloir s'opposer à Dieu. Troisième chose, le coupable disparaît devant Dieu. C'est à la fois réjouissant pour nous en tant que chrétiens, parce que des coupables qui nous embêtent tout le temps, on sait qu'un jour, ses ennemis ne seront plus là. Mais c'est triste pour ces gens-là qui sont réellement coupables et qui vont disparaître. On voit dans les versets 14 à 19, hein, on avait vu qu'il y avait une première attaque contre la ville de Ninive. Et vous savez qu'il y a eu un siège de 2 à 3 ans environ. Donc il y a une première attaque avec un premier roi, je ne me souviens plus le nom, on va peut-être me revenir. Et qu'ils avaient réussi à repousser. Et certainement qu'on est là dans cette phase de reconstruction. Hein. Ninive va tenter de tenir contre l'ennemi en réparant les murailles, puisqu'il dit « faites des briques, hein, répare tes forteresses, entre dans la boue ». On voit toute l'usine là, qui est en train de se mettre en place pour refaire des briques et pour reconstruire tout simplement la forteresse. « Vas-y, vas-y, Ninive, vas-y, fabrique toutes tes briques, mais le feu t'attend. L'épée t'attend, la destruction aussi t'attend ». Il va parler de beaucoup de sauterelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on va relire, c'est intéressant. Hein. À partir du verset 15, hein. « Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme les sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes princes sont comme des sauterelles, tes chefs sont comme une multitude de sauterelles. » Est-ce que Nahum aimait les sauterelles? Je ne sais pas, mais il y a certainement une image. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en hébreu, il y a trois mots pour les sauterelles. Et ça fait peut-être la nuance. Je vais le relire après avec les nuances. Mais il y a le premier mot qui est cette sauterelle qui s'appelle le yelek en hébreu et qui est la nymphe. Hein. C'est le premier stade en fait, de la sauterelle. Il l'emploie quelques fois. Un deuxième mot qui est arbet, je dis peut-être mal en hébreu, qui parle plutôt de la larve. Hein. C'est peut-être le stade un peu plus avancé. Où le mot pourrait dire « c'est sauterelle, mais en essaim ». Vous avez déjà vu un essaim de sauterelle, c'est terrible. Quand ça arrive dans un champ, il n'y a plus rien. Hein. C'est abominable. Peut-être dans le sens figuré, ça parlerait de disparition soudaine, insignifiante d'activité. Enfin, on peut imaginer peut-être toutes ces sauterelles qui sont en pleine activité et qui détruisent tout un champ d'un seul coup. Puis un troisième mot, « gov », qui parle de la jeune sauterelle, tout simplement. Je vais relire. Je ne sais pas si ça va apporter vraiment des nuances, mais c'est intéressant. Verset 15. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles, c'est-à-dire comme le yelek, c'est-à-dire comme la sauterelle dans sa nymphe, tout simplement. Entasse-toi comme les yelek, la même chose, hein, comme la nymphe. Entasse-toi comme les sauterelles, cette fois c'est le harbé, comme la larve, peut-être comme ces sauterelles qui sont en essaim, tout simplement. Verset 16, tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme la sauterelle. On revient vers le yelek, la nymphe, qui ouvre les ailes et s'envole. Verset 17, tes princes sont comme les sauterelles, le harbé, comme la larve. Tes chefs sont comme une multitude de sauterelles, comme le gov, c'est-à-dire ces jeunes sauterelles. Alors, peut-être qu'il y a l'idée là, hein, ils sont pleins de hardiesse, ils ont envie de se battre, hein, tout simplement. Qui se posent sur les haies au temps de la froidure, le sel est paré, elles s'envolent et on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Je ne sais pas si ça apporte une petite nuance, mais peut-être que pour Nahum, ça voulait dire quelque chose dans l'hébreu. Mais voilà pour ces sauterelles. En tout cas, le feu attend Ninive, le feu va dévorer telle des sauterelles. Là, l'image, on comprend mieux. Quand les sauterelles passent, il n'y a absolument plus rien. Quand le feu passe, il n'y a plus que des cendres après. Alors, est-ce qu'il voulait parler des Mèdes, peut-être qui allaient attaquer, puisque c'est eux qui ont attaqué au début, qui allaient frapper la ville? Ou est-ce que c'est parce qu'ils allaient mettre le feu et que ce feu va faire fuir les gens de la ville? Parce qu'on n'aime pas être brûlé, hein, donc on s'en va, comme peut-être les sauterelles. C'est comme ça qu'on fait dans un champ de sauterelles, on met le feu pour qu'elles s'en aillent, tout simplement. C'est difficile à savoir. Quelqu'un écrivait, en parlant de cette destruction par le feu, comme les sauterelles, disait, d'après certains historiens anciens, Ninive fut détruite par le feu. Les découvertes modernes ont confirmé cette déclaration. Ninive serait réduite en poussière, comme si une invasion de sauterelles s'était abattue sur son territoire, et ce, malgré le fait que ses habitants aient pu être aussi nombreux qu'une armée d'insectes. On sait que les murailles sont tombées, et certainement que l'ennemi est venu comme des sauterelles et a ravagé complètement la ville. Même si eux étaient aussi nombreux qu'une armée d'insectes, c'est pas parce qu'ils étaient nombreux qu'ils ont gagné, tout simplement. Vous allez rêver de sauterelles cette nuit, je crois. Hein? Mais on imagine quand même l'image terrifiante, finalement. Parce qu'il vaut mieux pas que les sauterelles arrivent dans un champ. Il n'y a plus rien après. Mais Ninive, verset 16-17, est complètement abandonnée. Et ça, c'est intéressant, hein. On verra la leçon après, mais par les marchands, hein, qui l'abandonnent, qui avaient fait un grand commerce avec elle et qui avaient peut-être apporté cette richesse, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles s'envolent comme des sauterelles, comme le djélec, elles fuient tout simplement. Ok, il n'y a plus moyen de faire quelque chose dans cette ville. Elle est abandonnée par les princes. On ne pense pas qu'il s'agit là des généraux, mais peut-être plutôt des soldats de l'armée. Alors bon, il y a plusieurs avis, hein, mais ces soldats, ben, vont aussi partir ou mourir, surtout peut-être dans le combat. Les chefs aussi vont abandonner la ville. Alors le mot en hébreu est assez douteux, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Peut-être c'est ces chefs qui enrôlaient les soldats, peut-être ces soldats qui étaient comme des jeunes sauterelles, hein, qui ont envie et qui sont téméraires pour aller combattre. En tout cas, elles vont disparaître, vont fuir. Ces chefs, hein, et c'est intéressant l'image qu'il prend, hein, qui se posent sur les haies, sur la muraille quelque part. Hein, vous imaginez un peu l'image, ils regardent comme ça, et quand vient le froid, quand tout va bien, on est là, on fait des pierres sur sa muraille, et quand vient le froid, taillot, taillot, on disparaît comme les sauterelles. Hein. Et c'est pareil, quand l'ennemi est arrivé, tous ces chefs qui étaient puissants là sur les murailles, ben, finalement, ben, disparaissent ou sont mis à mort. C'est terrible. Et c'est surtout que là, on voit combien il est important des fois de se confier dans le monde. Enfin, je fais exprès d'ironiser. Hein. Parce que quand tout va mal dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble, il y a une solidarité qui se place, c'est ça? Tout le monde fuit pour ses intérêts. Tout le monde part pour ses intérêts, les marchands, les princes, les chefs. Tout le monde s'en va, fuit loin de Ninive, débrouille-toi. On t'a aimé parce que tu avais un intérêt pour nous. Aujourd'hui, comme tu n'es plus là, débrouille-toi tout seul. C'est pour ça que le chrétien n'est pas appelé à se confier dans le monde. Parce que le monde, on ne peut pas lui faire confiance du tout. Hein? C'est terrible. Personne ne rassemble Ninive aussi, verset 18. Ben, tout simplement parce que je crois que c'est le gros bazar, non l'armée. Ou alors il n'y a plus de chef pour rassembler justement l'armée. Hein. Ni les bergers ne peuvent rassembler. Les bergers, c'est peut-être les généraux, le roi peut-être. Ils sommeillent, ils sont endormis. En fait, ils sont complètement impuissants devant l'invasion. Ni les vaillants hommes qui reposent, ou peut-être on pourrait penser qu'ils sont gisants, donc morts tout simplement face à l'attaque. Ni le peuple qui est dispersé sur les montagnes. De toute façon, le peuple, quand il n'a plus de chef, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, taillot, taillot. Ils s'enfuient. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'organisation et on ne peut plus rien faire. Et on peut essayer d'imaginer cette ville-là qui était tellement puissante, qui d'un seul coup est complètement dans la panique, dans la mort, dans le sang. Ça devait être absolument effroyable. Mais elle a été avertie. Comme les gens à Armageddon ont été avertis. Comme les gens qui iront en enfer ont été avertis par Dieu plusieurs fois. C'est la fin définitive de Ninive, hein, verset 19. Il n'y a point de remède à ta blessure. On ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Tu vas mourir. Hein. Et on avait dit la dernière fois que certainement que Dieu a permis qu'il y ait des pluies torrentielles qui vont s'abattre sur la ville et que le Tigre va déborder, hein, le fleuve qui était juste à côté, et cette eau va emporter tout simplement la muraille. Ce n'est pas forcément les Mèdes et l'ennemi qui va réussir à détruire la muraille, mais c'est Dieu qui va intervenir. Et là, des fois, on se croit fort face à l'homme. Oui, pourquoi pas? On peut peut-être battre l'armée. Mais quand Dieu intervient, alors là, on ne peut plus rien faire. Et les murailles vont tomber, tout simplement. Et le roi et ses sujets vont monter sur un bûcher, comme dit Nahum. Quelque part, ils vont mettre le feu, certainement, au palais. Hein, puisqu'on pense que... Certains pensent que le roi, voyant complètement désespéré, voyant qu'il allait perdre, il aurait mis le feu, tout simplement, au palais. Il serait brûlé là-dedans avec d'autres personnes. On verra bien, un jour Dieu nous en parlera, mais bon, c'est pas le plus important. Mais la plaie, elle est mortelle. Maintenant, il est trop tard, la grâce a été refusée, la guérison est impossible. Tu es puni, tu as refusé ma grâce, tu es puni. Et j'imagine dans l'enfer, hein, comme l'homme riche avec Lazare, hein, qui dit « Ah, j'ai chaud », qui regrette quelque part, et qui voudrait tellement que dire aux gens vivants « Attention, c'est vrai, ben oui, quand on refuse la grâce, on est loin de Dieu ». Dieu n'avait pas voulu ça pour nous. Mais si nous ne repentons pas, ben c'est ce qui arrivera pour nous, pour l'éternité. Ceux qui entendent parler de toi battront des mains. On imagine la joie des nations aux alentours. Bon, ce ne sera pas fini pour eux parce qu'il y aura toujours d'autres peuples. Hein. Le peuple qui est en train d'envahir Ninive n'est pas meilleur. Hein. Voilà, c'est un problème. Mais il y a de la joie parce que celui qui faisait tant de mal, ben, finalement, est abattu par Dieu. Elle est jugée. Elle est dans la honte. Abandonnée, cette ville, oubliée pour toujours. Car qui est celui que ta méchanceté n'a atteint? Ils avaient fait tellement de mal aux alentours et finalement, Ninive a disparu. C'est marrant parce que quand on regarde dans l'histoire humaine, tous ces grands empires qui vont envahir, détruire, ils sont où aujourd'hui? Il est où l'Empire romain? Tout puissant. Et ce fameux grec, hein, avec Alexandre le Grand, qui était tellement puissant, il est où? Ça n'a pas duré longtemps. Hitler, il est où? Pas duré longtemps. L'homme croit pouvoir être si puissant, mais finalement, quand Dieu décide, ben, les choses disparaissent. On en a clair. C'est terrible quand même, l'orgueil de l'homme. Vous allez dire, mais ça ne me concerne pas. Ça, c'est les gens qui se la pètent, on va dire, hein, qui ont envie d'être des dieux sur la terre. Oh là, oh là. On a notre orgueil aussi, des fois. On ne va pas conquérir le monde, ça c'est sûr. Mais des fois, il peut faire des ravages, cet orgueil-là. Et ça doit aussi nous parler, ces textes-là. La puissante Ninive disparaît définitivement, hein, sur la terre, et elle est là, livrée entre les mains du Tout-Puissant. Puis une quatrième chose, c'est que finalement, et là c'est la leçon globale qu'on peut tirer, c'est que le coupable aurait pu être gracié. C'est triste, quelque part. Mais il devait répondre, hein, à cette grâce. Et le coupable, s'il ne répond pas à cette grâce, va répondre par contre de ses actes, parce que la Bible nous dit que nul va échapper à Dieu. Le monde, un jour ou l'autre, va prendre fin, et j'ai l'impression qu'on y est de plus en plus près. Je ne donnerai pas de date parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça, mais il y a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous montrent que ben, déjà la Bible a dit vrai, a prophétisé des choses vraies, mais ce monde commence à devenir complètement fou. Ça nous réjouit parce que le Seigneur vient bientôt. À nous d'être prêts, évidemment. Si ça pouvait être demain matin, vous n'iriez pas travailler, ça serait quand même plus simple, non? Votre ciel. Mais bon, vous irez quand même travailler, je crois. Mais le monde va prendre fin et toutes nos tentatives d'échapper à Dieu, peut-être, ben, vont être inutiles, puisque le jugement de Dieu va de toute façon venir tôt ou tard. Et le coupable, devant Dieu, disparaîtra définitivement. On n'entendra plus parler, sera dans la gloire, pendant que les autres ne seront pas dans la gloire. Hélas, c'est triste, on n'en entendra plus parler. Ils ont été jugés par Dieu. Les puissants, les orgueilleux, tous ces gens qui pensent pouvoir lutter contre Dieu ou qui refusent tout simplement Dieu seront oubliés dans les tourments de l'enfer. Il y aura des cris certainement là et beaucoup, beaucoup de regrets. J'ai entendu, je savais, on m'en avait parlé. J'ai pas écouté. Satan et ses disciples, tous les gens qui l'ont suivi, peut-être volontairement ou qui se sont fait tromper, ben, seront là. Avec tout le mal qu'ils ont fait, avec tous les protagonistes qui ont suivi Satan, et tout ça va un jour disparaître. C'est vrai que le mal est là, on en souffre aujourd'hui, mais un jour, et c'est toute ma joie, tout ça, on ne le connaîtra plus. On sera dans le ciel, plus jamais on se fera à nous-mêmes du mal, à soi, aux frères peut-être. On sera parfait. Un truc bizarre dans ma tête toujours, hein, comme je dis, j'arrive pas à me comprendre sans faire de mal. Mais on sera comme ça, et dommage que l'Église, on ne puisse pas la vivre comme ça, au moins une semaine. On serait tous parfaits, là, et on s'aimerait mutuellement, sans se faire des petits bobos à droite et à gauche, avec des paroles toujours pleines de grâce, etc. Ce serait chouette, hein? Mais Seigneur a voulu que ça soit comme ça, donc certainement c'est mieux. Mais un jour, on sera absolument parfait et loin de tout le mal. Ninive devrait servir d'exemple, hein, parce qu'il y a le témoignage d'un roi qui s'appelle Xénophon, hein. Je lis ce qu'il avait écrit dans un de ses écrits. En allant vers cette ville de Ninive, hein, il dit, les alentours de la ville sont encore habités à l'époque achéménide, selon le témoignage de Xénophon, de passage dans la région lors de la retraite des mille, bon, on s'en fiche, en 400 avant Jésus-Christ. Il rapporte dans une lettre être passé avec son armée aux abords des ruines d'une ville appelée Mespila, couramment identifiée comme étant Ninive, et qui semble inhabitée à ce moment-là, mais qui sert de refuge aux habitants de la campagne environnante du fait de ses murailles restées imposantes. Il restait certainement encore des murailles là, mais détruites, mais il est passé là et il n'y avait plus rien. Terrible. C'est qu'au 19e siècle qu'on a retrouvé, en faisant des fouilles, quelques morceaux de Ninive. Mais la Bible a dit vrai, tout a disparu. Mais si le coupable répondra de ses actes, le coupable repentant, par contre, Dieu va le gracier, quel que soit ce qu'il a fait dans sa vie. C'est la bonne nouvelle qu'annonce l'Évangile. Et je pense que peut-être dans le cœur de Dieu, si on peut dire ça, il espérait que ces gens se repentent. En tout cas, il avait tout fait pour que... Il les avait avertis. Et si Dieu avertit, c'est pour qu'on change d'attitude, tout simplement. Mais si autrefois Ninive s'était repentie, cette fois, elle n'a pas voulu se repentir, malgré la leçon qu'elle avait déjà eue. C'est dommage. La repentance est douloureuse. Je suis d'accord. Je suis passé par là. On doit accepter qu'on est pécheur. On doit accepter qu'on n'était pas sur le bon chemin. doit accepter que Dieu avait raison, alors que tous les jours je dis, non, c'est moi qui ai raison, hein. Fier d'être comme cela, et non, ça fait mal de se repentir. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ne se repentent pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être chrétiens, mais qui ne sont jamais passés par la vraie repentance. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises qui pensent être sauvés parce qu'ils ont levé une main, comme on a dit vendredi, parce qu'ils ont chanté une fois un chant. C'est pas ça, être né de nouveau. Il faut passer par la repentance, reconnaître son péché, reconnaître qu'on était loin de Dieu, qu'on a lutté contre lui et demander pardon pour ses péchés. Et quand je suis dans cet état, je comprends aussi que je suis jugé par Dieu. À cause de ce péché, je méritais l'enfer. Mais Dieu vient et me dit, non, j'offre la grâce, je veux te pardonner. C'est à moi tout simplement d'accepter cette grâce et elle est gratuite et elle est merveilleuse pour celui qui la saisit tout simplement. Et les fruits de la repentance, même si des fois elle est douloureuse, ils sont bien meilleurs que les fruits de l'orgueil. Parce que les fruits de l'orgueil, c'est la mort tout simplement. Les fruits de la repentance, la douleur peut-être est là, oui, mais au fond, celui qui s'est repenti, comment il est après? On est bien, on est en paix. On est tranquille avec Dieu, on est réconcilié avec lui. Et être réconcilié avec Dieu, je crois que c'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Hein? Vous n'êtes pas réconcilié avec moi, tant pis, ça c'est une chose. Mais avec Dieu, ça c'est quand même ce qu'il y a de préférable. Maintenant, si vous avez un grief vis-à-vis de moi, venez me voir tout à l'heure, hein? On va se réconcilier. Parce que le Seigneur le veut aussi. Mais il est préférable d'être l'ami de Dieu plutôt que d'être son ennemi. Et ça c'est clair. Et Ninive nous le démontre tout simplement. Mais nous, qui sommes réconciliés, nous qui sommes graciés, à nous maintenant, en tant que témoins, de faire entendre la vérité à ces gens qui sont coupables. Parce qu'on n'a pas été sauvés juste pour être sauvés en se disant « Je suis sauvé, ouais, moi, je vais au ciel, tant pis pour les autres. » C'est pas ça que le Seigneur veut. Il nous dit que nous sommes ambassadeurs de cette réconciliation. Ambassadeur, c'est « Je suis citoyen du ciel, je représente mon roi, tout simplement, sur la terre aujourd'hui en tant que chrétien. » Et donc, en tant qu'ambassadeur, je vais aller annoncer justement le message de cette bonne nouvelle. Comme l'a fait autrefois Jonas, comme l'a fait Nahum. Bon, Jonas, c'est pas vraiment le meilleur des exemples, parce que lui, il voulait que la ville soit détruite. Nous, on ne veut pas évidemment que les gens périssent. Mais à nous aujourd'hui de rappeler les risques à nos familles, à nos enfants peut-être, à nos collègues. Hein, je me souviens, j'avais un collègue quand je travaillais, quand j'étais à Arles. Pendant un mois, je lui ai parlé de Christ, on a beaucoup discuté. Puis bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait, mais un mois après, en venant le lundi matin au travail, il n'était pas là. Il avait une vingtaine d'années, il est mort. Accident de voiture en rentrant de boîte de nuit, tout simplement. Et pendant un mois, on a parlé intensément. J'espère qu'il a accepté dans son cœur le Seigneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, leur rappeler qu'il y a des risques. On n'est pas tout puissant, hein. Demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver et je peux me retrouver devant Dieu. Rappeler qu'ils sont pécheurs. Ah, le péché aujourd'hui, on n'ose pas dire qu'on est pécheur parce que les gens se moquent un peu de nous. Non, non, rappelez-le, rappelez-le. Vous n'avez pas tué, c'est bien. Vous avez une mauvaise pensée, vous êtes pécheur. Et même si vous dites que vous n'avez jamais péché, vous venez de faire votre premier mensonge. Donc, vous êtes pécheur de toute façon, quelque part. Mais rappeler la condition de l'homme, c'est tellement important, et la mettre en lumière par rapport à la loi de Dieu. On ne doit pas regarder à notre loi en tant qu'homme, se dire « Ah ben j'obéis à ça, c'est à Dieu que je dois obéir, pas à mes propres lois, mais à la loi de Dieu tout simplement. » Et leur rappeler qu'ils sont responsables devant Dieu de ce qu'ils font tout simplement. Même si le monde ne veut pas changer, même si on a beau essayer de témoigner et que rien ne change, on dirait, notre responsabilité c'est en tout cas de les tenir au courant, être cette lumière dans les ténèbres, comme Jésus l'a été autrefois. Et comme ça, au moins, il y a un point de repère, quelque part, pour ces gens qui sont perdus. Peut-être qu'ils vous refouleront 15, 20 fois, mais peut-être dans une situation de vie à un moment. Allô, Emmanuel, je me souviens que tu m'avais parlé de Christ. Et peut-être qu'au moins, en tant que point de repère, ben, on est déjà très utile, peut-être, à ces gens-là. Je sais que ce n'est pas évident de toujours témoigner dans ce monde. Mais le méchant n'échappera pas à Dieu, mais avant qu'il n'échappe à Dieu, enfin avant qu'il soit jugé par Dieu, il a la chance de pouvoir être gracié. Quelle chance on a, franchement, de pouvoir vivre cela grâce à Dieu, tout simplement. Pour terminer, pour conclure un peu ce livre, c'est passionnant, les petits prophètes, non? Moi, c'est un peu la guerre, là, c'est peut-être les hommes, peut-être plus, je ne sais pas, je dirais les femmes, hein, mais. Il y a tellement de leçons à tirer dans ces livres-là. Nahum, je pense, et là c'est même pour les chrétiens, doit nous faire craindre Dieu. On avait vu au début comment Nahum décrit la puissance, la majesté de Dieu. Généralement, on réduit Jésus-Christ à un petit copain, à notre pote dans notre vie, alors que quand on le verra en face, à mon avis, qu'est-ce qu'on fait? On aura juste envie de s'agenouiller. Mais peut-être que déjà aujourd'hui dans notre vie, à nous de voir la vraie dimension de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être notre ami. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas avoir une relation avec nous. Mais peut-être que la crainte et le respect pourraient grandir vis-à-vis de lui. Et quand on le fait, ben notre vie change aussi. Se souvenir qu'il est majesté, hein, qu'il est aussi plein de justice, amour et juste. Et les deux marchent ensemble. C'est valable pour le chrétien aussi. On doit aimer les prochains. Moi, j'aime les ouailles, on va dire, de l'Église, mais je serai aussi juste quand il le faut. J'essaie de l'être déjà pour moi, mais je le serai aussi avec les autres. Amour et justice marchent ensemble. Naïm montre aussi l'horreur du péché. Et on voit dans la destruction de la ville, hein, c'est là tout l'effroi. Bon, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'imagination. Moi, j'aime bien imaginer la bataille qu'il y a eu, le sang. Enfin bon, je ne veux pas non plus vous faire trop peur. Mais c'est ça, le fruit du péché, tout simplement. L'horreur du péché. Et chaque fois que je pêche, je me souviens que Jésus a été crucifié aussi à cause de ce péché-là. Ça fait mal, la croix. C'est même pas la croix qui fait mal. C'est de prendre le péché sur soi et de le pardonner, de l'expier. Ça a dû faire énormément de tort à Jésus-Christ. Et non seulement c'est horrible, mais ça a des conséquences terrifiantes, puisque Ninive péchait et faisait beaucoup de mal autour d'elle. Hein. Mais par contraste, dans ce livre, quelque part, Nahum veut aussi le dire, il montre la grâce qui est encore proposée. C'est ça, hein, Nahum prévient. Par Dieu prévient tout simplement cette ville en leur rappelant que, attention, tu vas être jugé, mais tu peux peut-être changer encore. Méfie-toi, comme Jonas, à l'époque de Jonas. Hein. Et aujourd'hui, Dieu nous dit aussi que cette grâce est encore offerte. Si vous ne l'avez pas encore acceptée dans votre vie, ben, c'est l'occasion de le faire. Hein. N'hésitez pas à venir me voir, à prier le Seigneur, de vous aider peut-être à l'accepter dans sa vie. Mais Dieu veut absolument tout pardonner, et il peut tout pardonner. Vous étiez meurtrier autrefois? Si vous vous repentez, Dieu pardonne. On ne recommençait pas, évidemment. Dieu pardonne tout pour celui qui se repent. Par contre, il punira celui qui le renie et qui ne veut pas se repentir. À nous qui sommes graciés, moi je pense que ce livre me pousse à prier davantage pour les gens qui sont perdus. Pas seulement pour ma famille, parce qu'on le fait peut-être, mais vous avez des collègues, vous avez des voisins, vous avez un monde, des autorités, comme dit la Bible, de prier pour eux. Tous ces gens-là sont perdus aujourd'hui. Si Jésus revenait. À nous de prier, et c'est notre responsabilité de prier. C'est leur responsabilité de fléchir le genou, mais nous avons notre responsabilité de prier de plus en plus pour ces gens-là. Nous sommes responsables en tant qu'ambassadeurs. C'est pas rien d'être ambassadeur, hein. C'est la classe quelque part, mais en même temps, c'est une sacrée responsabilité quand on y réfléchit. Et Christ fait de nous des ambassadeurs pour que nous fassions des disciples, comme dit d'autres passages, pour que nous annoncions tout simplement la bonne nouvelle avant que Dieu envoie Jésus-Christ sur cette terre pour juger une fois pour toutes l'humanité. Que le Seigneur nous aide dans cette grande mission. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est inspirée du début à la fin et particulièrement ce petit prophète Nahum qui nous apprend tellement de choses. Cet orgueil de l'homme qui se croit tout-puissant et capable de gérer la vie, gérer même peut-être la mort des fois dans certains cas, et qui finalement, devant ta toute-puissance, se retrouve vraiment minable, Seigneur, et impuissant. Quelle tristesse, Seigneur, d'avoir un cœur si profondément pécheur, Seigneur. Pardon si nous l'avons été ou si nous le sommes encore des fois, Seigneur. Mais aide-nous, en tant qu'ambassadeurs, à parler autour de nous du péché, de cette grâce possible encore pour quiconque veut se repentir, Seigneur. Faites de nous, oui, ces ambassadeurs, ces disciples qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ce monde qui se perd, qui est plongé dans les ténèbres, Seigneur. Que nous puissions briller dans notre ville, dans nos familles, dans notre travail, Seigneur, avec nos amis. Que cette petite lumière puisse éclairer ceux qui sont perdus et nous prions pour que des gens encore se convertissent. Tu es patient, comme tu le dis dans l'Épître de Pierre. Et Seigneur, fais que nous soyons aussi actifs dans cette patience. Bénis-nous encore durant cette journée. En Jésus-Christ. Amen.